Je suis très heureux d'être avec vous. Ce n'est pas la première fois, mais pour vous peut-être. Déjà plusieurs fois, mais les années passent tellement vite et vite et vite. Et j'ai eu l'occasion plusieurs fois d'être avec vous. Et aujourd'hui encore, je suis content de retrouver certaines personnes. Même une de nos filles de l'école du dimanche, de longtemps, longtemps, longtemps en arrière, elle est là parmi nous et c'est vraiment un plaisir, vraiment très, très grand. Que dire ce matin à nos cœurs? C'est peut-être un témoignage personnel. J'ai pris de plus en plus de mon temps pour prier. On est retraite, on a le temps, et puis alors il y a beaucoup de choses encore qui sont quand même encore sur le programme. Quand le programme a diminué, j'ai dit, je ne veux pas relâcher, je veux prier davantage, et plusieurs parmi vous ce matin, je sais ce qu'ils sont dans nos prières, dans mes prières, depuis pas mal d'années. Mais je me rends aussi compte qu'on est très limité, nous, en tant que chrétiens, par rapport à la prière. On croit toujours savoir pour qui prier, parce qu'il a toujours un malade, il a toujours un malheureux, il a toujours une souffrance quelque part. Mais la prière, ce n'est pas seulement cela. Et c'est ce que j'aimerais illustrer avec un récit de la Bible que vous connaissez peut-être par cœur, parce qu'on le lit souvent, et c'est la conversion de Saul de Tarse. Un homme qui était vraiment dans la loi juive et qui commençait à haïr les chrétiens d'une manière terrible. Il a l'impression qu'ils étaient tous sur une fausse route. Il a commencé à persécuter les chrétiens, à les mettre en prison. Et puis quand le premier martyr, Étienne, est mort, il trouvait son plaisir en cela. Il n'avait qu'un seul désir, de nuire à ces chrétiens, de les éliminer, et d'éliminer cette nouvelle religion qu'il croyait être une religion qui, pour lui, c'était un abandon du judaïsme et de la loi de Moïse. Alors, nous allons lire le texte de départ dans Actes 9. Quant à Saul, il respirait toujours la menace et le meurtre. Remarquez bien, menace et meurtre. Il n'hésitait pas à tuer. Il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouverait hommes ou femmes. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnèrent arrêtèrent, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Paul se releva de terre. Malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but rien. Et là, ça commence déjà dans ma pensée pour la prière. Tout le monde était au courant de cette avance à Damas. D'ailleurs, c'est étonnant, Damas, c'était l'étranger pour les Israélites. Comment a-t-il pu avoir la permission de ces souverains sacrificateurs d'aller dans un autre pays dans le seul but d'éliminer les chrétiens. Il savait que chez lui, c'était plus facile parce qu'il avait plus de personnes qui étaient contre ces nouveaux chrétiens. Et tout le monde savait que maintenant, la catastrophe allait commencer. Et nous, alors, on va commencer à prier. Qu'est-ce qu'on va prier? C'est une grande question. Qu'est-ce que vous avez comme sujet de prière? Bien sûr, je ne vais pas interroger, mais je veux dire, sujet de prière, Seigneur, donne que ça ne se passe pas. Protège les chrétiens de Damas. C'est une prière, c'est une bonne prière. Seigneur, fais un miracle. Qu'il tombe en cours de route ou je ne sais pas quoi, mais donne que ça n'a pas lieu, cette persécution, parce que quand Paul faisait quelque chose seul, quand il faisait quelque chose, il le faisait comme il faut. Et là, vous faites des réunions de prière, « Seigneur, Seigneur, aide, aide nos amis. » Et d'autres auraient prié, mais il faut plutôt prier pour que ses amis puissent se sauver, qu'ils puissent quitter Damas, qu'on ne les trouve pas. Un bon sujet de prière. Préserve-les, préserve leur vie. Tu peux trouver un moyen qu'ils puissent sortir, et l'apôtre, non, il n'était pas encore apôtre, mais ce Saul, il ne le trouvera pas. On pourrait prier dans tous les sens. Surtout, protège, protège tes enfants et ne fais pas, voilà. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ça pourrait remplir des sujets et des réunions de prière pendant des jours et des semaines et les prières des chrétiens du matin au soir. Et la prière peut-être la plus efficace, c'est comme ça que je pense, Seigneur, donne qu'il ait une crise cardiaque sur le chemin, comme ça on a terminé. Et on croit que c'est une prière très logique et une prière bien, parce qu'on aimerait protéger la vie des croyants. Une crise cardiaque, on serait heureux. Je ne sais pas comment vous aurez prié, qu'est-ce que vous aurez dit. Mais il y a tellement de moyens ici pour prier qu'on n'arrive pas à savoir quelle est la bonne prière. Et je pense qu'il y a très peu qui ont vraiment pensé, Seigneur, change le cœur de cet homme. Après coup, hein, c'est facile, mais sur le coup. Là, nous voyons que nous sommes vraiment incapables de toujours prier selon la pensée, selon la volonté de Dieu, parce qu'on n'a pas la situation en main, on n'a pas la vision de Dieu dans nos cœurs. Seigneur, Seigneur, prie, fais, et donne que mes frères ne soient pas embarrassés. Je ne dis pas que ces prières sont mauvaises, mais elles ne vont pas toujours dans le bon sens. Elles ne vont pas dans le sens que Dieu a choisi, parce que Dieu avait un autre plan. Il fallait l'apprendre, et je pense que cette histoire nous l'apprend d'une manière merveilleuse. Et sachons que toutes nos prières, même les plus belles, ne sont pas parfaites. Devant Dieu, il y aura toujours des failles. On prie des fois pour ceci et cela, et ce n'est pas du tout la pensée de Dieu. On croit d'avoir bien prié parce que le cœur y était, alors quand le cœur y est, c'est bien. Mais l'apôtre, alors cet homme-là, qui est devenu apôtre Paul plus tard, a été arrêté sur le chemin, pas par un chrétien courageux qui aurait dit, voilà, je risque ma vie pour protéger mes frères, mais par la lumière d'en haut, par le Seigneur, qui dit, mais pourquoi tu me persécutes? Mais moi, j'aimerais faire du bien, j'aimerais éliminer ces chrétiens qui nuisent à notre religion, à nos institutions religieuses. Et cet homme fort, déterminé, abandonne ou doit abandonner ses propres forces. Il est aveugle, il doit être tiré, conduit par des compagnons. Et au lieu d'entrer dans Damas, en tant que cet homme cruel qu'on craignait, il était porté ou bien il était amené par des gens, il ne savait pas où il était, ce qui se passait. Et pendant 3 jours, il ne mange plus rien, il ne boit plus rien, il ne sait pas ce qui va se passer. C'est une situation difficile. Il aurait pu se révolter, non, mais il était là. Il savait que quelque chose devait se faire. Et encore une fois, est-ce que quelqu'un parmi nous à l'époque aurait prié, Seigneur, donne qu'il arrive dans un moment où il ne pourra plus rien faire. Mais c'est trop difficile. Hein? Il avait tout le pouvoir. Et là, Dieu parle à un de ceux qui ont aussi beaucoup prié, certainement. Parce que la Bible nous dit, il avait à Damas, verset 10, un disciple nommé Ananias. Ça, c'était aussi un qui a prié. Seigneur, tu vois ce qui nous attend. Tu vois ce qui m'attend, ce qui attend mes frères, Seigneur. Et je ne sais pas exactement comment il a prié, la Bible ne dit pas. Mais je suis sûr qu'il n'a pas prié dans un sens où il aurait dû prier, parce qu'elle a dû apprendre que Dieu avait décidé autre chose. Il a dit, va vers cet homme de Saul et tu vas lui parler de ma part. En tant que chrétien qui a prié, qui a demandé, Seigneur, donne-moi une possibilité de rencontrer Saul, il a prié pratiquement, tant que je ne le rencontre pas parce que c'est un monstre. Je ne peux pas aller devant lui, je ne peux pas aller, non Seigneur, pas moi, non, ça ne va pas. Et d'ailleurs, il répond à Dieu, comme si Dieu n'était pas au courant, mais c'est pas lui qui persécute partout les chrétiens, qui nous amène à la mort. Il n'a pas été ouvert, comme il aurait dû l'être, en tant que serviteur de Dieu, en disant, tu me demandes d'aller, alors j'y vais. Vous voyez, nous ne sommes pas toujours d'accord de faire ce que Dieu veut de nous. Et il aurait bien été d'accord d'envoyer quelqu'un, mais pas aller lui-même. Se jeter dans la gueule des lions, comme on dit. Seigneur, tu le sais, alors donc tu t'apprends quelque chose. Est-ce qu'il a appris quelque chose à Dieu? Non, Dieu le savait. Tu vas lui parler. Et il lui parle en lui annonçant l'Évangile, en lui annonçant la venue de Christ, son salut. Et tout à coup, les yeux se sont ouverts et cet homme a complètement changé dans la présence du Seigneur. Il a reconnu que Jésus était son sauveur. Il a mis son esprit dans son cœur et il savait que maintenant une nouvelle vie pouvait commencer. Et il est allé dans Damas, mais cette fois-ci pas pour persécuter les chrétiens, mais pour aller dans les synagogues en disant, moi j'ai découvert Jésus, vous aussi vous devrez avoir Jésus dans votre vie. Et c'est quand même formidable. Est-ce que vous aurez eu le courage, encore une fois, je vais toujours revenir à ça, est-ce que vous aurez eu le courage au début, dans la situation difficile, de penser, donne-t-il prêche plutôt à Damas le salut que de persécuter les chrétiens? Alors, moi je ne peux pas dire que je peux être fier, parce que ça me serait venu à l'idée, j'aurais prié dans ce sens. Je crois que le Seigneur a employé des fois beaucoup de moyens aussi pour nous amener à la bonne direction dans nos prières. Et dans cette ville, des personnes sont ouvertes à la parole de Dieu. Alors cet homme qui était venu pour détruire a commencé de prêcher dans les synagogues, a lui-même eu de la résistance parmi les Juifs. Mais il était sûr qu'il était là avec la puissance de l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous croyez que c'est possible que Dieu peut transformer des cœurs et des vies encore aujourd'hui à ce point? Je bénis le Seigneur de ce témoin dans les synagogues et dans la ville de Damas. Mais ce n'était pas fini et je pourrais aller dans les détails, mais ça serait trop long. C'était normal qu'il voit trouver les apôtres. Et les apôtres, bien sûr, c'était la centrale où tous les soucis et les sujets de prière ont été amenés. Les gens qui étaient au courant, ah, mais à Damas, ça va aller mal, on va prier. Je vous laisse lire ces passages parce que ce serait trop long ce matin. Mais il voulait s'introduire avec les chrétiens de Jérusalem, les apôtres, et puis tous ces nouveaux convertis qui étaient là, il aurait voulu dire, voilà ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Mais au lieu d'être reçu, sois le bienvenu mon frère, tout le monde avait peur. Non, ils ont prié pour lui, mais quand il est venu, ils ont eu peur. Mais, si l'histoire se répète, vous voyez, j'avais un ami qui était vraiment dans le monde, mais c'était terrible, bagarreur du coin, quand il avait la fête foraine. C'est lui qui mettait KO vraiment toujours des copains, des gens, parce qu'il y avait toujours des bagarres et puis tout. Et un jour, Dieu lui a parlé et il a osé aller dans l'assemblée. Et on a beaucoup prié pour lui parce qu'il nuisait à tout le monde, parce que l'assemblée pour lui, c'était horrible. Et quand il est arrivé, parce que Dieu a touché son cœur, tout le monde s'est méfié de lui. Ouh, mais qu'est-ce qu'il va faire alors chez nous, hein? Ah, ça va aller mal. Puis après, il est revenu, ah, c'est peut-être parce qu'il a des belles jeunes filles dans notre assemblée, il a peut-être une en vue, voilà, il joue le jeu. Mais il n'avait personne dans cette assemblée qui a cru que quelque chose s'était passé dans son cœur. Et là, nous nous retrouvons parfois en piège, hein, parce que on n'a pas le courage de penser que Dieu peut faire des choses comme ça. Alors ça s'est bien tourné pour mon ami, puisque après ils ont connu que c'était vraiment la bonne disposition de cœur. Il est parti en mission comme missionnaire. Il a fait un travail très très béni en Afghanistan, un pays qui était très fermé pour l'Évangile. Mais pourtant cette histoire se répète. Mais nous, est-ce qu'on a la capacité, est-ce que vous avez la capacité, à grâce peut-être, de rencontrer ou d'accepter un ennemi que vous savez qui est vraiment terrible et horrible? Est-ce que vous avez le courage de prier que le Seigneur est capable de toucher son cœur ou bien qu'il a déjà touché le cœur? Alors les apôtres, même, c'est des exemples magnifiques, hein, je vous donne un exemple, les apôtres avaient peur. Et il fallait un autre serviteur, Barnabas, qui a réfléchi, qui a vu la situation, il a tranquillisé le cœur des responsables, et enfin, Saul était intégré dans l'assemblée des croyants. Mais il fallait du chemin. Mais encore une fois, est-ce que vous aurez cru au départ voir Paul à Saul dans l'assemblée, intégré à côté des apôtres? Qui aurait eu le courage de penser que Dieu est capable de faire des choses pareilles? Vous voyez, là, on se sent toujours petit, et je dois dire que souvent, dans la façon dont je prie, je me sens aussi petit, hein, parce que je n'ai pas toujours cette audace de la foi, hein, de croire que c'est possible. On a beau prier, des fois on prie, 10 fois, 100 fois, 100 fois pour la même chose, mais on ne croit pas que ça se réalise, parce que c'est trop dur, hein. Mais pour Dieu, il n'y a pas d'obstacle. Alors, Saul était toujours, pour beaucoup, celui qui persécutait. Et peu à peu, on a pu se rendre compte que Dieu a travaillé dans son cœur, que c'est un nouveau, un être nouveau. Et je bénis aussi, alors, entre parenthèses, là, ce Barnabas, verset 27, qui a eu le courage de prendre l'initiative parce qu'il a cru ce qui s'était passé avec Saul de Tarse, cet homme dangereux. On le retrouve, Paul, Saul, parce qu'il est devenu Paul, je vais directement l'anticiper, parce qu'autrement je mélange, avec sa nouvelle vie, il a été désormais appelé Paul, avant c'était Saul de Tarse, et maintenant Paul, serviteur de Jésus-Christ. Il s'intègre dans une église, dans chapitre 13, la première église chrétienne du Nouveau Testament, Antioche, verset 1. Il avait des prophètes, des enseignants, Barnabas, Simeon, Lucius, Manaém et Saul. Il était un des responsables de cette église qui priait beaucoup et qui demandait à Dieu de bénir. Et voilà, Dieu donne l'ordre à cette église de partager les anciens. Mettez-moi à part Barnabas et Paul pour le service que j'ai préparé pour eux. Alors il montre que c'est une église qui porte la mission, qui porte les frères qui partent en mission. Et on peut bénir le Seigneur de tout ce ministère de Paul, d'atteindre des chrétiens, des croyants, oui, de faire des croyants, des hommes, des femmes, de toute la société, en fondant ici et là, et ici et là encore, des églises. Et en rendant ce témoignage, moi j'étais un ennemi de la croix, maintenant je suis serviteur de Jésus-Christ. C'est magnifique, hein, moi je connais plusieurs témoignages extraordinaires, et je bénis le Seigneur. Quel témoignage merveilleux. Mais là, il était beaucoup attaqué aussi, par ses propres frères parfois, par des gens qui n'ont pas compris ce qu'il faisait, mais il est allé en avant. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que le Seigneur a fait des choses merveilleuses avec ce Saul, avec ce Paul? À un moment donné, il a le courage d'aller dans l'aéropage à Athènes, où il avait des grands savants du monde grec pour annoncer l'Évangile. Mais Je ne pense pas que l'apôtre Pierre aurait eu le courage de le faire et la capacité aussi de s'adresser à ce monde intellectuel de l'époque. Lui, il va en annonçant l'Évangile. Mais Seigneur, merci parce que tu as suscité Paul de le faire. Hein, c'est vraiment un sujet de reconnaissance. Mais j'aurais jamais cru, Seigneur, qu'il puisse faire des choses pareilles, jusqu'à aller à l'aéropage. Mais c'était vraiment extraordinaire. Et après, je le vois, vous pouvez lire ce passage du Nouveau Testament, cet apôtre qui prie pour les chrétiens. Je prie et qu'il dit, nuit et jour, je pense à vous dans mes prières. Vous vous rendez compte, si Saul ne s'était pas converti, toutes ces prières auraient manqué. Hein. L'Église n'aurait pas été édifiée de la même façon. Qui aurait cru? Là, je repose la question. Qui aurait cru au départ que quelque chose de comme ça soit possible? Vous savez, Dieu nous dépasse. Et malgré la faiblesse de la vie de prière et de la foi des hommes et des femmes de l'époque, Dieu a poursuivi son chemin. Après, je me dis, si le Seigneur n'avait pas appelé cet apôtre, qu'est-ce que j'aurais dans la main? Ni l'épître romain, ni les épîtres corinthiens, ni les éphésiens, colossiens, thessaloniciens. Mais ma Bible serait beaucoup plus mince. Et il me manquerait beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. Et Dieu avait besoin de quelqu'un qui écrive intelligemment. Voilà, Dieu n'est pas là pour dicter simplement, tu vas écrire ça, voilà, ne demande pas à droite et à gauche, c'est comme ça. Dieu a besoin de quelqu'un, de tout son cœur, a écrit, et ses paroles étaient inspirées de Dieu. D'ailleurs, c'est un style très personnel. Quand nous lisons les épîtres de Paul, c'est différent des Pierre hein, et de Jacques, hein, et d'autres qui ont écrit. Dieu utilise notre personnalité pour se manifester. Alors je me dis, mais s'il n'avait pas été là, je serais pauvre ce matin. Peut-être je ne vais pas utiliser les livres, les lettres de Paul, mais vous les avez. Vous avez par exemple « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », je le répète, « Réjouissez-vous ». Tout cela vous manquerait ce matin, vous serez une église un peu, j'aurais pitié de vous, hein, sans tout ce que l'apôtre donne dans ses richesses. Encore une fois, je pose toujours la même question, est-ce que vous aurez cru à cela au départ? Est-ce que vous aurez eu le courage de prier pour que l'église entière soit fortifiée jusqu'au 21e siècle, jusqu'à aujourd'hui. Mais Dieu nous dépasse. Dieu nous dépasse d'une manière incroyable. À un moment donné, c'était très difficile entre les chrétiens qui sont venus du judaïsme et puis d'autres qui étaient des païens et les chrétiens qui venaient du judaïsme avaient encore un voile devant leurs yeux. Il fallait pas se mélanger avec les autres. Mais le Seigneur avait envoyé son esprit où il est après question. Il n'a plus juif ni grec, etc. Et l'apôtre Pierre qui annonçait l'évangile, qui était un peu le patron hein, de l'église, même s'il n'a pas de patron dans l'église, mais voyez ce que je veux dire, il avait beaucoup à dire. Il a manifesté ça en prenant le repas à Galate avec des chrétiens qui venaient du paganisme. Il s'est pas gêné de manger avec eux, ce qui était horrible pour les juifs de l'époque, même convertis. Alors, qu'est-ce qu'on va dire à cet homme? Très gentiment, mes frères, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, non. La Bible nous dit, il l'a repris très fortement, publiquement. Il a dit, Pierre, tu es un hypocrite, parce que quand les Juifs sont arrivés, les autres sont arrivés, Pierre s'est séparé et s'est lavé, voilà, et il a fait semblant de ne pas avoir mangé avec les Galates. Et l'apôtre a dit, voilà, tu renies là la puissance de la croix et cette promesse qui a été faite, et c'est une réalité, ni juif ni grec, ni esclave ni libre, mais enfant de Dieu par la foi. Je me demande comment Pierre, par exemple, ou Jean dans la Bible, lequel était capable de publiquement prendre position comme ça. Dieu avait pensé d'avance à ce Saul de Tarse. C'est lui qui pourrait régler cette situation. Mais alors, il a eu beaucoup de difficultés, beaucoup de persécutions. Il a échappé à la mort plusieurs fois. Une fois, il était lapidé, il était laissé comme mort. Tout le monde croyait qu'il était déjà auprès de son Seigneur. Mais quand les gens sont partis, ils avaient fait leur travail, hein, les non-chrétiens. Il s'est levé, il a dit, voilà, je vis toujours. Et il a continué sa marche avec le Seigneur. Il a été employé de parler devant les autorités du moment dans l'Apocalypse. Vous pouvez lire ce livre, c'est magnifique, avec des contradicteurs, mais des centaines de milliers de convertis aussi. Qui aurait cru au début à ce ministère de l'apôtre Paul? À un moment donné, il était tellement attaqué, tellement mal fait, maltraité, qu'il a pris la pensée, il a saisi la pensée, mais ils me battent là, mais ils n'ont pas le droit parce que je suis un Romain. Il avait la nationalité romaine, et il a dit, mais est-ce que il vous est permis de fouetter, de taper, de frapper un citoyen romain? C'est un tel privilège d'être citoyen romain, on avait une protection incroyable. Et les autorités ont pâli parce qu'ils craignaient d'être mis peut-être même à mort d'avoir fait ça. Vous voyez, être chrétien, c'est pas seulement toujours subir, mais aussi on peut montrer les droits qu'on a. Et il avait le droit, en tant que romain, d'agir autrement. Et ils se sont excusés auprès de lui et il n'a pas fait des histoires. Pour dire, toujours, il fallait quelqu'un comme lui pour confronter les autorités aussi. Et quand c'était devenu tellement fort, il a dit, arrêtez maintenant ce que vous avez fait. Je demande d'être devant César. Et là, c'était un privilège du citoyen qui était romain. Dans n'importe quelle situation, même s'il était coupable ou pas coupable, de s'en appeler à l'empereur. Et depuis ce moment, tout s'est arrêté. Toutes les contrariétés, il fallait que les gouverneurs du pays respectent le désir de ce citoyen romain de se présenter devant César. Alors, vous pouvez lire aussi comment ça s'est passé sur le voyage, avec des naufrages, avec des difficultés incroyables, et finalement avec un conducteur avec un chef de ce bateau qui a dit ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait pas faire et puis qui a dit, mais maintenant écoutez, ça fait tellement longtemps que vous luttez avec dans la tempête, maintenant prenez de la nourriture. Et tout le monde a commencé à prendre de la nourriture, mais une autorité incroyable de ce Saul de Tarse, l'autorité du Seigneur. Et il est arrivé, on va aller vite, il est arrivé jusqu'à Rome. Est-ce que c'était banal de rencontrer l'empereur? Je vous pose la question. Est-ce que vous avez entendu parler des empereurs romains qui étaient des hommes terriblement cruels? Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un héros le plus terrible de tout ce qui a existé? Est-ce que vous avez déjà entendu de ce Néron qui a persécuté les chrétiens, qui les a utilisés comme des lanternes pour les fêtes? Alors, on a mis le feu, des chrétiens qui ont été brûlés pour éclairer les festivités, ou bien ceux qui étaient venus pour la fête. Cet homme qui a fait incendier toute la ville de Rome en disant après coup que c'était les chrétiens qui l'avaient fait pour attiser la haine, hein. Un homme terrible. Vous savez à quel âge il est devenu roi, empereur? C'est toujours des hommes mûrs, hein, parce que il avait 17 ans, j'ai bien vérifié, 17 ans, à 17 ans déjà, un ennemi épouvantable pour tout ce qui était chrétien, et non chrétien aussi, il faut dire. Et Dieu demande à ce Paul d'aller le voir. Alors, si je vais regarder un peu, vous pouvez le faire en Internet. Vous avez beaucoup d'indices. Cet homme qui régnait d'une manière vraiment absolue, horrible, horrible dans ses comportements. Alors il s'est marié, il a tellement frappé sa femme qu'elle est morte, avec le désir d'avoir un fils pour perpétuer sa génération. Il a pris une concubine, elle attendait un enfant, mais dans la rage, il l'a frappé, puis finalement a fait une fausse couche, et puis on a vu que c'était un garçon. Alors, ce qu'aurait voulu, ça ne s'est pas arrivé. Il a fait des choses, mais épouvantables. Est-ce que ce n'est pas vraiment un miracle aussi, que Dieu permet à un homme, un des plus cruels des hommes qui a existé, d'avoir le témoignage de Jésus-Christ en face? J'aimerais voir l'empereur, ah oui, des citoyens romains, tu peux le faire. Et cet homme si terrible, avant de mourir, a eu un témoignage extraordinaire de la part de Paul. Encore une fois, est-ce que le témoignage de Pierre, Jacques, Jean aurait eu le même poids que celui de Paul? En disant à cet empereur, j'étais persécuté, mes frères sont persécutés, mais la vérité est en Jésus-Christ. Je ne crois pas qu'il était là tout modestement, oui. Est-ce que vous ne pouvez pas faire quelque chose pour mes frères et sœurs dans la foi? Je suis sûr qu'il a annoncé l'Évangile comme il a annoncé partout dans le monde. Et je suis étonné, croyez-moi, et je suis étonné que Dieu ne laisse pas mourir cet homme si terrible sans lui parler en face, en lui annonçant l'Évangile. Et si tu ne deviens pas chrétien, si tu n'acceptes pas Jésus-Christ dans ton cœur, tu es perdu pour l'éternité. Il fallait avoir le courage de le dire devant Nero. Est-ce que vous avez eu le courage? Ne me posez pas la question parce que j'aurais quand même eu peur, hein, je pense. Le Seigneur a donné la force. Entre parenthèses, j'ai rencontré beaucoup de récits où des hommes et des femmes illustres dans le monde, politiques, militaires et autres. On lit dans leur histoire, pour ceux qui connaissent, que juste avant la mort, ils ont eu une occasion d'entendre l'Évangile. Ça, c'est un miracle. Vous pouvez une fois prendre ça de l'histoire. Dieu arrange les choses pour que toute personne puisse, avant sa mort encore, entendre parler de lui. Et Dieu, nous dit la Bible, appelle 2 à 3 fois. Peu après, Nero est mort. Vous savez à quel âge? C'est pas un vieillard. 31 ans. Il était César pendant 14 ans, avec tout le mal qu'il a fait. Vraiment, un homme le plus cruel, peut-être, que l'humanité a produit. Et Dieu offre encore la grâce à cet homme. Écoutez, ça nous dépasse. Je fais un petit reproche à la Bible. Non, comprenez-moi bien ce que je veux dire. J'aurais bien aimé une page ou deux de plus pour savoir ce que Paul a fait en ce moment-là, comment ça s'est passé. Ça vous intéressait? Si je l'avais là, je pourrais vous le lire, vous serez tellement intéressé que vous ne pensez même pas au repas parce que ça vous intéresse. C'était certainement incroyable. Incroyable. Encore une fois, qui aurait cru? Qui aurait cru qu'une chose pareille soit possible? Je vous avoue, je ne crois pas que ma prière aurait été assez efficace dans ce domaine. J'aurais été tellement arrêté par mon incrédulité. Et on peut prier tout en étant incrédule. Ça paraît drôle, hein, mais ça peut. Je ne parle pas inclus, je crois toujours en Seigneur Jésus, je crois toujours à sa puissance, mais je prie pour quelque chose où je ne suis pas sûr que ça peut arriver. Mais toute chose est possible à Dieu, la Bible dit clairement, hein. Toute chose est possible à Dieu, je bénis le Seigneur. Donc c'était la conversion de Saul qui était une bénédiction du Seigneur. Et Dieu avait besoin de cet homme, il avait besoin d'un homme puissant, un homme qui était faible dans sa santé, il avait des défaillances, je pourrais aller dans les détails là aussi, avait des problèmes des yeux, avait toutes sortes de problèmes, et il a demandé à Dieu, aide-moi, sors-moi de cette situation, et Dieu a dit, ma grâce te suffit. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes tes forces, toutes tes capacités pour être là pour le Seigneur. Sers le Seigneur comme tu es. Et c'est Paul qui voyait mal, qui avait certains problèmes, avec puissance, a pu annoncer la parole de Dieu. Je dis encore une fois combien j'aurais aimé vous apporter ce récit. Nous tous, nous avons sauté de joie et, mais c'est incroyable ce qui s'est passé. Et je ne peux même pas vous dire, la Bible ne dit pas, et aucun écrit dit, quelle était la réaction de cet empereur. Mais je peux vous dire une chose, il est sorti indemne après cette rencontre. Ça veut dire, il a comme quelque chose qui s'est passé, au moins partiellement, dans le cœur de cet homme, Néro. Je reviens au départ. Qui parmi nous aurait cru que l'histoire se termine ainsi? Qui aurait cru ce que Dieu a mis dans les étapes de la vie de Paul, et que c'était le seul, finalement, qui pouvait le faire? Il avait toute l'expérience, il était romain, né romain, ce qui était un avantage incroyable de l'époque. Protégé par la loi romaine, les Romains étaient terribles, 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 mais à Rome, il avait une justice. Les Romains avaient une justice qui fonctionnait. On ne pouvait pas faire n'importe quoi dans l'Empire romain. Dieu avait besoin de quelqu'un qui confronte et qui aille jusqu'au bout. Et je bénis encore une fois le Seigneur de n'avoir pas écouté les prières des chrétiens. Si cette prière était exaucée, donc qu'il y ait une crise cardiaque, je n'aurais pas tout ce récit-là. Et je n'aurais pas la certitude que l'empereur le plus horrible de l'histoire ait pu entendre l'évangile avant sa mort. J'ai mal prié. Seigneur, je n'aurais jamais cru. Et bien souvent, quand nous prions, nous voyons des choses auxquelles on n'aurait jamais cru, parce que le Seigneur fait des miracles encore aujourd'hui. Et ne croyez pas de bien prier, mais soyez dans l'humilité en disant, Seigneur, de moi-même je parle mal. Je ne sais pas toujours prier. L'apôtre dit même, je ne sais pas toujours comment prier, mais c'est l'Esprit qui prie pour moi. Le Seigneur prie pour moi. Merci. Gloire à Dieu. Encore une fois, ça nous interpelle, vous et moi, de l'importance de la prière, mais aussi du fait que nous prions, que notre prière est imparfaite. Mais Dieu veille, il est le Tout-Puissant, et sa volonté s'accomplit d'une manière incroyable. Et Dieu a besoin d'outils, il a eu besoin de Saul de Tarse, un outil précieux devant ses yeux, et il a besoin de chacun de nous aussi. Que le Seigneur nous aide à marcher dans ses voies et à accomplir sa volonté. Et quand vous priez la prochaine fois à la réunion de prière, ayez l'humilité de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux vraiment? Mais que ta volonté soit faite. Prions. Seigneur, merci parce que tu as fait des grandes choses pour notre frère Paul. Tu as fait des choses impossibles, incroyables, mais tu avais besoin de lui pour accomplir ton plan. Tu avais besoin de lui pour nous écrire des passages, des lettres de ses lettres. Merci Seigneur de toutes ces personnes qui se sont tournées vers toi, qui ont appris de marcher avec toi. Et merci parce que même l'empereur a pu être touché par l'évangile. Tu ne l'as pas laissé mourir sans lui témoigner que tu étais toi, le puissant, le maître de l'univers. Et tu n'as pas caché qu'il devait fléchir les genoux devant le Père, car tout genou fléchira devant Dieu. Seigneur, merci de cette grande histoire et merci de cet apôtre. Bénis-nous dans notre vie de prière dans notre vie de croyant. Seigneur, nous voulons croire que tu es le Dieu de l'impossible. Et là où tu as commencé ton œuvre, tu es capable de l'accomplir. Je le crois fermement de tout mon cœur pour chacun parmi nous ce matin. Amen.